VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est midi à Kinshasa. Le prix Nobel de la paix a été attribué aujourd'hui au médecin congolais Denis Mukwege et à Nadia Mourad, esclaves du groupe État islamique, qui œuvrent à mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. Denis Mukwege et Nadia Mourad ont tous les deux risqué personnellement leur vie en luttant courageusement contre les crimes de guerre et en demandant justice pour les victimes, a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Rice-Andersen. Les Nations Unies ont salué une annonce fantastique qui aidera à faire avancer le combat contre les violences sexuelles comme arme de guerre dans les conflits. Après le prix de la paix, le seul décerné à Oslo, celui d'économie, donnera lundi à Stockholm le clap de la fin des Nobel, de la saison des Nobel. Le prix de littérature a été reporté, lui, d'un an par l'Académie suédoise, enferré dans un scandale d'agression sexuelle. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi, dans un communiqué, le Cameroun à tenir dimanche une élection présidentielle dans un contexte pacifique, crédible et inclusif. Il encourage tous les Camerounais à exercer leurs droits démocratiques et appelle toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue avant, pendant et après les élections. Dimanche, donc, 9 candidats, dont le chef de l'État, Paul Biya, s'affronteront dans les urnes pour briguer la présidence du Cameroun dans un contexte sécuritaire tendu avec les attaques persistantes des djihadistes de Boko Haram dans le nord du pays et le conflit armé dans les régions anglophones. En République démocratique du Congo, mise en place d'une commission pour approfondir certaines questions techniques liées au processus électoral. C'est la principale recommandation issue de la rencontre jeudi à Kinshasa entre les candidats à la présidentielle du 23 décembre et le bureau de la CENI. Cependant, les principaux candidats de l'opposition se sont dit insatisfaits des réponses de la Commission électorale nationale indépendante et avertissent qu'elle devra porter seule la responsabilité d'un éventuel échec des élections. Les détails avec Thierry Kabodi de Top Congo FM, nos stations partenaires à Kinshasa.
Après près de 5 heures de discussion sur le processus électoral, les candidats présidents de la République à l'élection du 23 décembre 2018 et le bureau de la CENI se sont mis d'accord pour qu'une commission technique soit mise en place. Cela dans le but de concilier les impératifs techniques et de faire adhérer tout le monde au processus, mais aussi de faire en sorte que les élections se tiennent absolument à la date prévue. Mais à côté de cet accord, les principaux candidats de l'opposition ont, dans une déclaration commune, dit leur insatisfaction. Selon Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Freddy Matungulu et Jacquemain Chabani qui a représenté Félix Tshisekedi, la Commission électorale nationale indépendante n'a pas convenablement répondu à leurs préoccupations, notamment sur l'usage ou non de la machine à voter et la radiation du fichier des électeurs sans empreinte digitale. Ses opposants considèrent d'ores et déjà la CENI comme responsable en cas de non-tenue des élections. En réaction, la CENI souligne que les considérations politiciennes et idéologiques ne doivent pas empiéter sur l'objectivité technique et invite les candidats présidents à une deuxième rencontre ce mercredi 10 octobre 2018. Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville voisin, le gouvernement a lancé hier un appel à la communauté internationale pour l'aider à trouver des fonds nécessaires à la réinsertion de quelques 7500 ex-combattants ninja dans le pôle. Les ambassadeurs qui ont pris part à cette table ronde ont demandé aux autorités d'affiner leurs démarches si elles tiennent vraiment à obtenir des financements. La correspondance à Brazzaville de Arsène Séverin.
Le programme vise à réinsérer 7500 ex-combattants et 2500 autres personnes qui leur sont épandantes. Pour cela, il faut plus de 8 milliards de francs CFA. Le gouvernement n'a pour l'heure trouvé que 2 milliards et il faut rechercher le reste auprès des partenaires. Pour l'ambassadeur de France, Bernard Cochéry, il faut encore plus de clarifications sur certains postes et dépenses pour éviter que l'argent ne finisse dans la poche des individus.
Également, il y a toujours ce sujet de vigilance. Quand on demande de l'argent aux partenaires pour financer un grand schéma, il faut toujours faire attention à ce que l'argent aille bien aux populations et non pas simplement aux experts. On va continuer à travailler avec les équipes des Nations Unies pour lever un certain nombre de points d'interrogation. En tout cas, moi je pense qu'il est essentiel pour le département du Pôle que tous les efforts qui sont engagés, notamment par les entreprises, que tout cela puisse avancer parce que les populations ont besoin aussi de ces signaux.
Le représentant de l'Union Européenne à cette table ronde a carrément souhaité que ce plaidoyer plaidoyer se poursuive à Bruxelles, où le Congo pourrait rencontrer des gens plus généreux. Le conseiller politique de l'Union européenne, Claude Bouchu.
Quand vous irez là-bas à Bruxelles, je pense qu'il faut vous équiper de ce tableau de bord, de cette matrice de l'ensemble des interventions que les chancelleries ou le système des Nations Unies pourraient appliquer dans le pool. En ce qui nous concerne, par exemple, nous avons un certain nombre de choses qui sont dans le pipeline et pour l'instant qui ne sont pas encore connues du grand public. Donc, si vous recensez ce genre d'initiative, ça vous met dans une position bien meilleure pour argumenter.
Le haut commissaire à la réinsertion des ex-combattants, Éloge Landry Kolela, a rassuré ses partenaires que le Congo voulait cette fois-ci enrayer le phénomène des milices armées dans le pool.
C'est une approche communautaire. C'est pas un cadeau qu'on va faire aux ex-combattants. Ce programme est complémentaire. Faut pas qu'on puisse éloigner, exclure ces jeunes-là. Sinon, ça sera une faute grave. On risque de retomber dans les travers du passé. Et nous pensons qu'il faut ces projets porteurs, il faut les occuper, ces jeunes-là, ensemble avec les populations, pour aller jusqu'au fond et régler définitivement cette crise du pôle. Hein, je suis moi-même fils de ce département et nous savons à peu près ce qu'il faudra faire.
Le PNUD qui accompagne le gouvernement dans cette quête de fond souligne que les bénéficiaires seront bien formés pour utiliser à bon escient leur argent. Le Congo s'apprête ainsi à mettre en œuvre son 8e programme DDR et aucun n'a jusque-là abouti dans le pool. Arsène Séverin, Brazzaville, VO Afrique.
La première dame des États-Unis, Melania Trump, a donné aujourd'hui le biberon à des éléphantaux et fait un bref safari au Kenya, troisième étape de sa tournée africaine en solo. Apparaissant détendue et souriante, l'ancienne mannequin de 48 ans a visité le fonds David Sheldrick pour la faune sauvage, célèbre pour avoir développé une méthode permettant d'élever des éléphantaux orphelins au Kenya. Puis Melania Trump a pris place à bord d'une voiture tout-terrain pour découvrir la faune sauvage du parc national de Nairobi. Sa visite dans la capitale kenyane se poursuivra dans la journée avec un déplacement dans un orphelinat et une représentation de théâtre. Sa tournée consacrée essentiellement aux enfants à travers sa campagne Bibé, soit le meilleur, avait débuté mardi au Ghana où elle a visité un hôpital pédiatrique puis un ancien fort esclavagiste avant de se rendre au Malawi. Ici aux États-Unis, le Sénat américain devrait aborder aujourd'hui l'avant-dernière étape de la confirmation à la Cour suprême de Brett Kavanaugh, qui a su être un juge impartial et indépendant après avoir été blanchi, selon les sénateurs républicains, des accusations d'abus sexuels le visant. Un vote de procédure pourrait être soumis aux sénateurs ce matin, avant-dernière marche, avant un vote final, peut-être demain samedi. La Maison-Blanche s'est dite confiante dans l'issue du scrutin. Abdourahman Dia.
Un rapport du FBI sur les accusations d'agression sexuelle portées contre Brett Kavanaugh a conforté les républicains dans leur soutien au candidat de Donald Trump à la Cour suprême. Il n'y a rien de nouveau dans ce rapport, a assuré le chef républicain de la commission judiciaire du Sénat, Chuck Grassley, qui souhaite que le vote final se tienne samedi. En revanche, la sénatrice démocrate Dianne Feinstein déclare que ce qui est notable avec ce rapport, ce n'est pas ce qui est dedans, mais ce qui n'y est pas, dénonçant une enquête incomplète. De son côté, la Maison-Blanche s'est montrée confiante dans un vote de confirmation rapide. L'exécutif a transmis dans la nuit de mercredi à jeudi au Sénat les résultats d'une enquête complémentaire sur Brett Kavanaugh, accusé par plusieurs femmes d'agressions sexuelles et de comportements déplacés dans sa jeunesse. Plusieurs femmes ont manifesté hier à Washington contre la confirmation de Brett Kavanaugh.
Les Brésiliens vont élire dimanche le successeur du conservateur Michel Temer, chef d'État battant tous les records d'impopularité arrivés au pouvoir en 2016 après la destitution de la présidente de gauche Dilma Rousseff. Un mandat marqué par des mesures d'austérité pour sortir d'une récession historique et par les scandales de corruption qui ont touché l'ensemble de la classe politique jusqu'au chef de l'État. D'un côté, Jair Bolsonaro, ce furieux candidat d'extrême droite que ses partisans surnomment le mythe. De l'autre côté, Fernando Haddad, intellectuel de gauche et poulain de l'ex-président incarcéré Lula, tout oppose les deux favoris du premier tour de la présidentielle au Brésil dimanche. Et puis l'Inde a acheté aujourd'hui à la Russie des systèmes de défense antiaérienne S-400 à l'occasion de la visite à New Delhi du président russe Vladimir Poutine. un contrat susceptible d'agacer Washington. La transaction s'élève à 5,2 milliards de dollars, selon l'AFP qui cite des responsables diplomatiques indiens. De manière remarquable, ni Vladimir Poutine ni le Premier ministre indien n'ont annoncé publiquement ce contrat lors de leur allocution conjointe. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.